VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, débat sur la capacité du pays à se défendre face à la multiplication des attaques terroristes.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît aux Nations Unies que le G5 Sahel peine à devenir opérationnel.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition appelle au boycott du prochain recensement électoral.
En Côte d'Ivoire, plus de 4000 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, se rendra le mois prochain dans 4 pays africains.
Et ici à Washington, le candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, est la première des 5 femmes à l'accuser maintenant de méconduite sexuelle devant la commission judiciaire du Sénat.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, la multiplication des attaques terroristes soulève de plus en plus de questions sur les capacités du pays à se défendre. Le point avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso, longtemps à l'abri, est entré dans un cycle de violence qui s'accélère avec des attaques incessantes et des zones d'insécurité de plus en plus grandes. Le Burkina est en train de perdre le nord dans les deux sens du terme, estimait une source occidentale dès le mois d'août. Elle pourrait désormais ajouter l'est. Attaques, enlèvements, explosions, il ne se passe plus une semaine sans que les djihadistes présumés ne fassent parler la poudre. Mercredi, 8 soldats ont perdu la vie en sautant sur un engin explosif artisanal dans le nord près de Djibo. Dimanche, 3 gendarmes ont été tués après l'enlèvement d'un Indien, d'un Sud-Africain et d'un Burkinabé travaillant dans la mine d'or d'Inata. Une double attaque dans des villages a fait 9 morts dans l'Est le 15 septembre et la nouvelle explosion d'un engin artisanal a coûté la vie à 2 soldats le 5 de ce mois. Le mois d'août a déjà été sanglant avec 13 personnes tuées par l'explosion de 2 mines artisanales ainsi que la mort d'un douanier dans une autre attaque. Hier mercredi, l'AFP a écrit que, je cite, « l'armée a perdu pied, incapable d'enrayer la spirale malgré des déclarations volontaristes ». Mais sans effet du président Roch Marc Christian Kabore. Pour Bakary Samre, directeur du Timbuktu Institute, après le Nord, si l'Est est pris, il y a risque de débordement vers des pays qui étaient très éloignés de l'épicentre, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso constitue un verrou entre le Sahel et les pays côtiers dans la lutte contre le terrorisme. S'il saute, ses voisins seront atteints, a averti le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a concédé hier que la force conjointe du G5 Sahel peinait à devenir opérationnelle. À la tribune de l'ONU à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, extrait de son discours à New York.
Le Sahel reste confronté depuis plusieurs années au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et au trafic en tout genre, notamment celui de la drogue, des armes, des marchandises illicites, des migrants, de blanchiment d'argent. Nous avons mis en place en novembre 2014 à Nouakchott ce que nous appelons le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, afin de mutualiser nos efforts pour faire face dans notre espace aux questions de sécurité et de développement. Cependant, la force conjointe du G5 Sahel peine à être pleinement opérationnelle, faute d'un mandat adapté et surtout de financement approprié. C'est pourquoi nous continuons de demander au Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de cette force sous le chapitre 7 de la Charte, assorti d'un financement adéquat, pérenne et prévisible, y compris à travers les Nations Unies, afin de lui permettre d'accomplir durablement et efficacement sa mission.
C'était le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition a appelé mercredi la population à boycotter le recensement électoral censé démarrer le 1er octobre en vue des élections législatives et locales. Le point avec Joël Zima de notre station partenaire Topongo FM qui séjourne ici à Washington.
Les élections locales et un référendum sont prévus le 16 décembre au Togo. Les législatives doivent suivre le 20 décembre, comme cela a été proposé par la feuille de route des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue de plusieurs mois d'un difficile dialogue entre pouvoir et opposition. Nous demandons aux populations de se mettre à l'écart du recensement électoral qui commence le 1er octobre, car ce sera une mascarade. On ne participera au recensement que lorsque les choses se feront dans les normes, a déclaré lors d'une conférence de presse Brigitte Adjamabgo Johnson, coordonnatrice de la coalition. L'opposition exige notamment que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante soit reconstitué après l'entente trouvée le 23 septembre avec le parti au pouvoir sous l'égide de la CDAO. Elle réclame également que tous les travaux entamés par la CENI jusque-là soient repris à zéro. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis au Togo ont salué mercredi l'évolution positive dans la tonalité des débats et dans la volonté commune d'organiser et de participer à de consultations électorales crédibles, transparentes et inclusives.
En Côte d'Ivoire, plus de 4000 détenus pour des délits jugés mineurs vont bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Les détails avec Nanit Talani.
Le communiqué du Conseil des ministres précise qu'il s'agit d'un acte de clémence et de pardon qui concerne 4200 des quelque 19 000 prisonniers. Cette grâce ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement, ni l'arrêt de condamnation. Ces mesures coïncident avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui dénonce une surpopulation carcérale, la vétusté des bâtiments, le manque de moyens et l'absence d'une logistique adéquate. Les gardiens de prison réclament aussi des meilleures primes. Au regard des injustices subies par le personnel pénitentiaire, nous en appelons à l'arbitrage du président de la République, voire organiser des états généraux de l'administration pénitentiaire, déclare Stéphane Kouadio Boko, un syndicaliste. Cette année, c'est la deuxième fois que des prisonniers bénéficient d'une amnistie en Côte d'Ivoire.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, a annoncé mercredi qu'elle se rendrait début octobre dans 4 pays africains, son premier grand voyage en solo dédié à la cause du bien-être des enfants. Le 1er octobre marquera le premier jour de ma visite en solo dans 4 pays d'Afrique magnifiques et très différents, Ghana, Malawi, Kenya et Égypte, a déclaré l'épouse du président Donald Trump lors d'une réception pour les conjoints des dirigeants présents à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Elle a souligné que ces pays avaient travaillé avec l'Agence américaine pour le développement, l'USAID, pour aider les enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
États-Unis, toujours, le président Donald Trump a, dans une conférence de presse hier à New York, accusé ses adversaires démocrates d'avoir lancé un effort concerté pour soulever des attaques de méconduite sexuelle contre le juge Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême. Ce dernier, qui dément et parle de campagne de dénigrement, fait maintenant face aux accusations de 5 femmes. La première, Christine Blasey Ford, qui dit avoir été victime d'agression sexuelle dans les années 1980, doit participer aujourd'hui, tout comme M. Kavanaugh, à des audiences publiques de la commission judiciaire du Sénat qui examine la nomination du juge. Abdourahman Dia.
Donald Trump a estimé que les nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre son candidat étaient fausses. Il a aussi attaqué l'avocat qui les a rendus publics. Dans un message sur Twitter, le président a déclaré que Michael Avenatti, qui défend déjà l'actrice de film porno Stormy Daniels, engagée dans une bataille judiciaire avec Donald Trump, est un avocat de bas étage qui n'est qu'au bon à porter de fausses accusations. Il cherche juste à attirer l'attention, poursuit le dirigeant américain. Julie Swetnick, la troisième femme qui accuse le juge, évoque dans une déclaration sur l'honneur hier une dizaine de fêtes de lycéens entre 1981 et 1983, durant lesquelles Brett Kavanaugh et Mark Judge, qualifiés de frères siamois, buvaient de l'alcool en quantité. Elle les accuse aussi de comportements inappropriés sur les femmes. Les républicains du Sénat ont engagé une femme avocate pour interroger la première accusatrice et Brett Kavanaugh, et la commission devrait en principe passer au vote demain vendredi.
Hier à New York, le président Trump a également déclaré que son administration envisage d'avoir un second sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un et qu'il en annoncera les détails bientôt. Auparavant, le secrétaire d'État Mike Pompeo avait dit que ce sommet pourrait avoir lieu après le mois d'octobre. Il doit faire aujourd'hui un briefing au Conseil de sécurité de l'ONU sur les efforts de dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Toujours hier, devant le Conseil de sécurité dont il présidait la réunion, M. Trump a qualifié l'Iran de principal parrain du terrorisme dans le monde. Selon lui, l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par son prédécesseur Barack Obama n'avait fait qu'exacerber l'agression iranienne. M. Trump s'est retiré de cet accord qu'il a encore qualifié d'horrible. En revanche, pour son homologue français Emmanuel Macron, une stratégie à long terme sur cette question iranienne exige plus qu'une politique de sanctions et de confinement.
Le président Trump a d'autre part accusé la Chine de tenter de s'ingérer dans les élections de mi-mandat de novembre prochain contre son administration, et ce parce qu'il est, je cite, le premier président à défier la Chine sur les échanges commerciaux et aussi parce qu'il gagne à tous les niveaux. Pékin a rejeté ces accusations, soulignant que la Chine a toujours respecté le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays. Selon M. Trump, la Chine fait de la propagande dans le Des Moines Register et d'autres journaux et essaie de faire croire que c'est de l'information. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Afrique, 24% des femmes créent leurs entreprises pour assurer leur subsistance, indique le rapport intitulé « L'entrepreneuriat des femmes en Afrique, un chemin vers l'émancipation ». Ce taux est beaucoup plus élevé qu'en Amérique, en Europe et en Asie centrale. Toutefois, ces femmes font face à des difficultés pour mener à bien leurs projets. On peut citer la rareté des infrastructures, le manque de formation digitale et la difficulté de trouver des financements. Et terminons avec la production des céréales des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain qui franchit le cap de 28,6 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018 en hausse de 2,8% selon les données du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le Mali est le plus important producteur des céréales avec plus de 9,5 millions de tonnes, suivi du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La progression sous-régionale pour la campagne 2017-2018 a été inférieure à celle de la campagne précédente, soldée par une croissance de 6,6%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial féminin de basket, au moins une équipe africaine en quart de finale.
Déjà entrée dans l'histoire du continent africain en dominant la Turquie puis l'Argentine en phase de poule de cette Coupe du Monde. Le Nigeria a créé un exploit en sortant la Grèce 57-56 au terme d'un match que les 10 Tigres ont globalement dominé avant de voir les Grecs revenir dans le dernier quart-temps. En quart de finale, les Nigérianes seront opposées aux Américaines, presque invincibles. Le Sénégal a lui été éliminé par l'Espagne, 68-43. La Chine, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale au détriment du Japon, 87-81, tout comme la France qui a battu la Turquie, 78-61.
Le Barça chute en Liga.
Ah oui, le FC Barcelone n'est plus invaincu. Le leader du championnat d'Espagne qui a concédé sa première défaite de la saison lors de cette sixième journée, foudroyé en l'espace d'une minute à Leganés, une défaite 2-1. Les Catalans avaient pourtant ouvert le score 1-0 grâce à une belle demi-volée de Philippe Coutinho, mais deux erreurs défensives ont permis à Nabil El Zahr puis Oscar Rodriguez de donner l'avantage au club de la banlieue de Madrid, Lanterne Rouge, et qui ne comptait aucune victoire en Liga avant cette rencontre. De son côté, le Real Madrid a également chuté, subissant un sévère revers sur le terrain du FC Séville, 3-0, peu rassurant avant le derby contre l'Atlético Madrid.
Statu quo en Italie.
Avant de s'affronter samedi, la Juventus et Naples ont bien négocié la journée de Serie A en dominant respectivement Bologne 2-0 et Parme 3-0. A noter que la Roma s'est réveillée contre Frosinone avec un bijou de Javier Pastore. Le score 4-0.
En France, le PSG domine largement la Ligue 1.
Oui, le PSG a remporté face à Reims 4-1, sa 7e victoire en autant de matchs de Ligue 1 cette saison. Le PSG compte 8 points d'avance en tête du championnat du jamais vu après 7 journées.
La liste des lions indomptables pour les éliminatoires de la CAN 2019.
La Fédération camerounaise a publié le nom des 23 lions appelés pour la double confrontation face au Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une liste qui comprend Christian Bassogog, alors que le sélectionneur Clarence Seedorf avait assuré qu'il ne convoquerait pas de joueurs du championnat chinois, provoquant la fureur et la retraite internationale de l'un d'entre eux, Benjamin Moukandjo. On note aussi le retour en sélection de Clinton Jay, sanctionné pour avoir fait venir des filles dans sa chambre lors d'un rassemblement de l'équipe nationale. On commentera également le retour du défenseur Jean-Armel Kanabik, dont l'histoire en sélection camerounaise a été assez irrégulière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le discours du président congolais Joseph Kabila devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. À cette occasion, M. Kabila a réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus en RDC après 20 ans de mission dans son pays. Une demande pressante alors que les élections doivent se tenir le 23 décembre dans le pays. Pour une analyse, Eddy Issango, adjoint, le coordonnateur du Comité des droits de l'homme et du développement, Alphonse Lugwango.
La force des Nations Unies était venue pour stabiliser le pays et c'était au moment où le pays était divisé en quatre parties et occupé par des forces rebelles. Aujourd'hui, c'est quand même une mission qui coûte extrêmement cher. Il faut voir aussi dans le contexte actuel des élections, est-ce que c'est le temps de pouvoir les demander? À mon avis, c'est non. Il faut d'abord que les élections puissent avoir lieu et qu'on ait effectivement des institutions en place qui pourront assumer les responsabilités de pouvoir pacifier les pays. Et à ce moment-là, il y aura effectivement le passage des forces entre les forces des Nations Unies et les forces nationales et l'armée nationale.
Mais les groupes rebelles ont toujours été là et n'ont jamais été éradiqués. En 20 ans, la mission des Nations Unies n'a pas réussi à les éradiquer. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a une vingtaine de personnes qui ont été massacrées, même à Beni, où il y a des soins qui sont prodigués aux personnes souffrant d'Ebola.
Oui, c'est la question qui fâche aujourd'hui le peuple congolais de manière générale. Ça veut dire que il faut voir aujourd'hui, est-ce que les forces des Nations Unies en RDC sont venues combattre les forces négatives, ça signifie les ADF, les Mai Mai et les autres. Alors, si on dit par oui, on pourra dire que bon, ils ont échoué. Mais si cette mission revient aux forces armées de la République démocratique du Congo, à ce moment-là, quel est le mécanisme de collaboration entre les deux forces qui existent aujourd'hui? Est-ce que les forces de MONUSCO aujourd'hui ont refusé d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour pouvoir combattre les forces négatives? Quels sont les moyens mis en place? Je pense que c'est autant de questions à évaluer pour pouvoir prendre une décision responsable.
Dans le même temps, le président Joseph Kabila a demandé que les moyens soient dotés aux Nations Unies pour qu'elles deviennent plus effectives. Pensez-vous que sa mission en RDC n'a pas suffisamment de mandats pour combattre ces groupes armés?
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de clarifier la mission, l'objectif de cette mission aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Nations Unies manquent de moyens.
Parlant des forces ou des mandats de la mission des Nations Unies au Congo, elle est passée de l'ONU à la MONUC et de la MONUC à la MONUSCO avec des mandats renforcés chaque fois.
Pacifier le pays ou stabiliser le pays? Stabiliser le pays sur quelle base? Je crois que c'est aussi le fait que l'objectif a été mal fixé, qu'aujourd'hui les résultats restent mitigés.
Alphonse Lungwango, coordonnateur du Comité des droits de l'homme et du développement à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
À New York, pour sa première participation à l'Assemblée générale de l'ONU en tant que secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, l'ambassadeur Tibor Nage a accordé une interview à Aidé Fitzpatrick de La Voix de l'Amérique. Il a évoqué quelques-uns des grands développements politiques sur le continent. Précision de Michel Joseph.
Ancien ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, en Guinée, diplomate dans plusieurs autres pays du continent, l'ambassadeur Tibor Nage s'est prononcé sur la décision du président Joseph Kabila de la RDC de ne pas briguer un autre mandat.
Très souvent, les gens croient que les États-Unis soutiennent les candidats de l'opposition dans toutes ces élections africaines. La vérité absolue, et je ne le soulignerai jamais assez, est que les États-Unis n'ont aucun candidat dans toutes ces élections. Notre seul candidat, c'est le processus.
Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines s'est félicité des audacieuses réformes engagées en Éthiopie par le premier ministre Abiy Ahmed.
Cela demande un immense niveau de confiance pour que le leader d'un État dictatorial, dont les origines remontent à 2000 ans, décide tout d'un coup de faire confiance au peuple, de se dire « nous allons faire confiance au peuple » et prendre ses décisions.
L'ambassadeur Tibor Nage, qui a servi au Zimbabwe, a souligné le grand potentiel de ce pays. Il a évoqué sa relation personnelle avec cette nation.
Mes triplets étaient les premiers triplets nés en indépendance au Zimbabwe.
Mes triplés étaient les premiers triplés nés dans le Zimbabwe indépendant, donc je me sens très lié à ce pays. Et rien que les opportunités touristiques, il n'y a presque pas de secteur où le Zimbabwe ne puisse pas exceller. Ce qui est essentiel maintenant, c'est l'action concrète.
Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, tient son élection présidentielle en 2019. Un scrutin qui sera suivi avec grand intérêt par Washington, a indiqué le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Les élections nigérianes sont toujours excitantes avec beaucoup de dynamisme, de débats et d'efforts de positionnement des partis. Je pense que ce sera le quatrième transfert pacifique et démocratique du pouvoir d'un gouvernement à l'autre.
Réagissant à l'idée selon laquelle la Chine est en train de s'imposer en Afrique, l'ambassadeur Tibor Nage a souligné les nombreuses initiatives américaines en faveur du continent, allant du PEPFAR à Power Africa, en passant par la coopération sécuritaire.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, l'Afrique à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole dans le Palais de Verre de New York pour faire entendre leur voix et point de vue sur les crises du monde et du continent. Quels ont été les discours les plus marquants? Quel financement et quel avenir pour les missions de maintien de la paix en Afrique? Comment œuvrer pour la paix alors que l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité? Et enfin, quelle solution pour la crise migratoire? En direct de New York, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En Angola, cette fois-ci, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain angolais et fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, est placé en détention provisoire. À Luanda, le parquet général précise que c'est dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'opposant Abel Chivuku Vuku, leader de la coalition dite Casa CE à Luanda.
Nous avons eu pendant des années un gouvernement qui a été caractérisé spécialement par la corruption, la malgestion. Avec un nouveau président, nous espérons que tout soit fait pour moraliser la société. Si cela implique quelques-uns devenir détenus, tout ce que nous espérons, c'est que tout le processus soit fait de façon légale, en respectant les droits des citoyens, mais surtout la loi pour tous. Tous les Angolais ont les mêmes droits envers la loi.
Ce n'était pas le seul fils de Santos aux affaires. On parle aussi d'Isabelle, qu'on présente comme la femme la plus riche du continent.
Il y aura certainement d'autres personnalités inculpées qui devront aussi faire face à la justice. Ça n'intéresse pas si est fils de quoi ou de qui. Ce qui intéresse les citoyens, il y a eu des responsabilités, il y a eu des malversations. C'est là la question fondamentale.
Mais il y a eu des malversations, mais il y a beaucoup d'argent qui se trouve encore à l'étranger.
Il faut d'abord relancer les processus judiciaires avec les tribunaux. Deuxièmement, il faudra récupérer l'argent angolais qui se trouve à l'extérieur dans les mains des gens qui ne devaient pas avoir cet argent. C'est-à-dire, il y a des phases. La première phase, c'est l'instruction des processus judiciaires. Ce qui est en train d'être fait maintenant. Il y aura certainement une deuxième phase pour récupérer l'argent qui se trouve à l'extérieur.
Est-ce que vous pensez que le président João Lourenço ira jusqu'au bout?
Il n'a pas une autre sortie. Agostinho Neto a été le président qui a proclamé l'indépendance. Qu'on le veuille ou pas, s'il a fait bien ou pas, de toute façon, il a proclamé l'indépendance. José Eduardo dos Santos, dans la dernière phase, a eu une gouvernement très mauvaise, presque criminelle. Il faut reconnaître qu'il a hérité d'Agustin Neto un pays en guerre, il a laissé pour Jean Lorenzo un pays en paix. Il a hérité d'Agustin Neto un pays de parti unique totalitaire, il a laissé une démocratie ouverture pas très bonne, pas très parfaite, mais de toute façon un pays libéral et multipartite. Il a hérité d'Agustin Neto un pays avec une économie de planification centrale, ce qu'on disait le communisme. Il a laissé à Jean Lorenzo un pays avec une économie libérale de marché. Mais les dernières années, c'était vraiment terrible, c'était presque criminel. Alors, Jean Lorenzo a besoin de changer le cap pour le pays, vers l'avenir. Et pour cela, il faut moraliser la société et nous tous le soutenons dans ce processus.
C'était l'opposant angolais Abel Chivuku Vuku, leader de la coalition dite CASA CE à Luanda.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'agence de presse sénégalaise, l'APS, est asphyxiée par les problèmes structurels suite à un manque de ressources financières et matérielles et à cause de son statut juridique. Jadis considérée comme la meilleure agence de presse de l'Afrique francophone, l'APS est aujourd'hui au bord du gouffre à quelques mois de son 60e anniversaire. Reportage de Seydina Abagay, correspondant de VOA Afrique à Dakar.
La douane de la presse sénégalaise agonise, elle manque de tout. L'agence de presse sénégalaise est sans ordinateur fonctionnel, sans fonds pour terminer l'année en cours, elle ne dispose même plus de connexion Internet. L'APS est à l'arrêt et ses travailleurs démoralisés sont en grève depuis une vingtaine de jours. Bamba Kassé est le secrétaire général de la section syndicale de l'agence de presse sénégalaise.
Si l'APS doit continuer à être gérée de la manière dont elle est actuellement, elle va disparaître. Aujourd'hui, le fil de l'APS, c'était un fil très, très familique, avec vraiment un minimum d'informations. Or, ça ne doit pas le cas. Simplement parce que la motivation également n'y est plus. Quand tu es travailleur agencier et que tu n'as même pas le minimum, tu es à Durban, tu ne peux même pas toi-même aller à Bambay à 20 km pour faire un reportage, ça craint. Et c'est donc toutes ces choses-là qui expliquent qu'on a décidé vraiment de marquer un arrêt pour la résolution définitive du problème.
En pleine crise, l'APS a déjà licencié 44 contractuels et prestataires pour essayer d'équilibrer ses comptes. Le directeur général, Tierno Ibrahim Fall, évoque un manque de financement chronique pour justifier cette situation.
On a cumulé donc beaucoup de dettes, beaucoup de passifs. Et de ce point de vue, nous sommes arrivés à un point qu'il faut aller vers la restructuration de l'agence de presse sénégalaise en la dotant de suffisamment de moyens, de ressources indispensables à son fonctionnement.
La restructuration de l'agence de presse sénégalaise traîne depuis trop longtemps, d'après le journaliste Patrick Mendy. Soutien inconditionnel des travailleurs de l'APS, ce doyen de la presse sénégalaise estime qu'il est temps que les confrères se mobilisent pour éviter la disparition de la première source d'information au Sénégal.
Ce que les travailleurs de l'APS veulent, c'est très simple. Je crois que c'est un changement de statut, c'est une restructuration de cette entreprise. Je pense que depuis au moins 20 ans, on parle de la restructuration de l'APS. Je crois qu'il est temps de franchir le Rubicon. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment aussi d'appeler les autres camarades qui sont dans le service public de marquer leur solidarité.
Du côté des autorités, on annonce des mesures pour faire passer l'agence de presse sénégalaise du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial au statut de société nationale. Le professeur Moustapha Samb est le président du conseil d'administration de l'APS. Il affirme que le chef de l'État s'est personnellement impliqué pour mettre fin à la crise qui secoue l'agence.
Le président a compris qu'aujourd'hui, l'APS ne peut pas continuer à avoir les milliers à compter sur un budget modeste et à travailler tout en ayant peu de marge de manœuvre. Le président a voulu en faire une société nationale, c'est-à-dire la société nationale permet à l'APS de pouvoir s'ouvrir pour augmenter ses capacités. L'État va augmenter considérablement le budget. En ce moment-là, l'APS va pouvoir mener une politique digne de son nom, capable de nous sortir de l'ornière.
Premier fournisseur d'informations au Sénégal, l'agence de presse sénégalaise vit des heures sombres et ses journalistes dénoncent des conditions de travail qui se détériorent de jour en jour. Malgré ces difficultés, l'APS demeure la source privilégiée des médias locaux, raison pour laquelle elle bénéficie du soutien des autres organes de presse. En grève totale depuis le 6 septembre, les travailleurs de l'agence espèrent une réaction concrète de l'État pour éviter une mort certaine à la douane de la presse sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagbi pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.